Au revoir.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
On tourne la scène des adieux.
Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est la dernière
émission nocturne en direct.
À l'année prochaine,
faire carrément sauter devant vous, maintenant là en direct, le studio. 5, 4, 3, 2, 1,
bonjour à tous, bonjour à toutes. Il était 19h, il est 19h12 et vous écoutez le dernier direct de Transistor pour cette année 2018-2019. Au programme ce soir et dans un studio mobile qui a déjà fait ses preuves, Maë.
Alors nous aurons à 20h30 et plus 12 minutes évidemment en spectateur, ensuite Sens d'étoiles plein les yeux ont des oreilles et enfin Scratch. Mais tout de suite on commence avec Transistor Veille, avec une multitude de petites chroniques que je ne vais pas annoncer, chers auditeurs. Vous retrouverez entre autres pour les plus longues, attention, pas les plus importantes. Des poils plein les yeux notamment à 19h30, voilà, comme ça, ça c'est l'émission pivot, la chronique pivot, on va dire. Mais on commence tout de suite du coup avec une première chronique qui est le journal UPDLN. À vous, chers auditeurs, de deviner ce que ça signifie. C'est la nuit, il est quelque chose comme 23h, je suis toute seule dans une petite rue et je suis postée en dessous d'une fenêtre. Je décris le moment où j'ai pris ce son, Rémi, arrête de rigoler. Je suis en dessous d'une fenêtre et j'espionne. J'espionne des gens qui font une fête, je vois leurs ombres en face sur la façade qui dansent et j'écoute les musiques qu'ils écoutent. Voilà.
Bon, là, Maë m'a dit qu'il fallait que je parle sur un son qu'elle a pris où il y avait du Barbara, mais je connais que le refrain, je peux vous le faire. Mais ça, c'est pas terrible. Hein.
C'est le bruit qu'a fait ce matin la Méditerranée en se vidant, siphon énorme et impossible, laissant à sa place un immense désert, un charnier honteux que nous avons peine à regarder. Tant de questions demeurent sans réponse. Qui a retiré le bouchon et pourquoi? Est-ce l'équivalent du déluge pour les poissons?
C'est le son d'un hominijambiste à moto, la vue éblouie par le soleil, avant un magnifique vol plané jusque dans une botte de foin, quelques minutes après son démarrage. La durée de son envol, si longue, lui laisse le temps de contempler le périurbain francilien de haut, façon Yann Arthus Bertrand, en se disant que c'était quand même ballot qu'il n'ait pas pensé à rajouter une troisième roue à son bolide.
J'espère, chers auditeurs, que vous avez suivi, tout de suite et sans transition, le billet d'humeur de Rémi.
Bonsoir, Maë.
Bonsoir.
Trois minutes d'humour, de subtilité et de blague avec du caca.
C'est quand?
C'est en ce moment.
Et voilà, c'est les vacances. L'été est là, qui chasse les dernières velléités de travail et resplendit de mille feux dans un ciel d'azur lourd d'une chaleur écrasante qui court comme un incendie sur les corps alanguis des touristes en bob claquette. Ouais, et ni la pluie ni mon mémoire à finir ne me feront changer d'avis. Seul subsiste après cette année de tumulte et de course contre le temps vorace qui mange la vie et nous rapproche insensiblement du tombeau. Cette année au début de laquelle, vous en souvenez-vous seulement, Johnny Hallyday et Jacques Chirac respiraient encore comme vous et moi. Seul subsiste sous la chaleur révélatrice la souveraine ironie du monde qui réapparaît quand l'été vient, comme le rappelait RTL, nous informant en mai dernier que 66 tonnes d'excréments d'alpinistes menacent de dégeler en Alaska. Imaginez l'humanité rattrapée par son anus qu'elle tentait désespérément de colmater à grand renfort de Greta Thunberg et autres Yannick Jadot. Un peu comme si soudain toute la crasse explosait, comme si Frédéric Vidal, vous savez, cette ministre qui partage avec le chou-fleur du fond de mon frigo une certaine coiffure, un certain pourrissement et une certaine compétence politique, annoncée comme on éructe, je cite, « Je ne crois pas que l'excellence académique soit liée à une quelconque origine sociale ». Comme si Patrick Balkany, recevant son prix d'interprétation à Cannes, se décrivait soudain, je cite, « en porte-parole de tous les Français qui ont un petit matelas de côté ». Un petit matelas façon Oncle Picsou dans sa piscine, feignant d'ignorer que la réalité des canards consiste essentiellement à finir plumé. Comme si dans notre monde où il suffit d'avoir un QI 12 et une carte en marche pour être député, la députée Sophie Errant justement annonçait sa candidature à la mairie de Nantes en arborant fièrement une photo de Montpellier. Comme si une paire de lunettes abandonnées dans un musée et suscitant l'admiration frénétique des visiteurs pouvait à elle seule proposer une redéfinition de ce que notre caste consanguine d'intellectuels de salon appelle art. Comme si Jean Leonetti, spécialiste de la fin de vie, se proposait pour présider les Républicains après le départ de Lolo de Pono. Comme si Nicolas Sarkozy estimait, chaque époque ayant le De Gaulle qu'elle mérite, peut-être devoir revenir. Comme si Marlène Schiappa, qui est à la lutte pour le droit des femmes, ce que Vincent Lambert est au Soaski, affirmait que faire la grève du sexe, c'est aussi se priver soi-même. Comme si Uber lançait une option pour demander au chauffeur de se taire, en attendant celle pour lui proposer un contrat de travail. Comme si la Chine inventait la sonnerie de téléphone spécifique aux citoyens endettés. Bref, comme si une étude nous prouvait, si c'était nécessaire, que de nos jours l'humanité est prête, je cite encore et toujours, à payer plus pour avoir une cocaïne éthique. Tout ça serait possible, oui, dans un monde où le ridicule serait l'étalon de toute chose, où l'ironie gouvernerait, mais il resterait encore l'été pour redonner à la vie son statut de merde dans une lucidité retrouvée, pour laisser jaillir l'ordure sur la terre et les mers, et s'y creuser un abri ensoleillé pour oublier le reste et les vicissitudes du monde. Alors nous pourrions goûter à nouveau les plaisirs simples qui peuplent les vacances, comme visiter ce parc d'attractions qui vous propose de vivre l'accident de Lady Di, ou, puisque la science a désormais montré que c'est possible, allumer un feu de camp avec ses poils de cul, en toute simplicité.
C'était le billet d'humeur de Rémi, j'arrive toujours pas à décider s'il était de bonne ou de mauvaise humeur, mais je crois que du coup, Colline va nous chanter une chanson pour...
Tout à fait.
Confirmer ça.
Une chanson pour confirmer ça. Et tu n'en as pas parlé, Rémi, dans ton billet d'humeur. Hier, c'était la finale de Roland-Garros. Quand le tournoi démarre, que les têtes de série montent toutes à Paris, mais sans aucun espoir. Qui est-ce qui leur fait peur? Qui ne perd aucun set, leur fait mordre la poussière, bah c'est toujours Nadal. Alors, quand il arrive sur le central, préparez vos prières. Préparez vos prières, ça fait 1000 ans qu'il gagne. Des bouteilles de champagne sur vos défaites amères. Un bras comme 10 fois le mien, des cheveux dans le vent. Peut-être qu'il boit du sang de taureau tous les soirs. Est-il un espagnol ou un jaguar? Préparez vos prières. Nous, tout ce qu'on veut, c'est du mystère, la concurrence sur la terre. Pourquoi pas laisser gagner Federer? Non, pourquoi tous les prétendants ont les mêmes noms qu'il y a 20 ans? Et parmi eux, toujours aucun Français. On y a cru Dominique, t'étais notre seul espoir. Mais c'était la panique, appeler les brancards.
un tournoi dans le vent. Tu t'es pris une rafale, mais t'as pris 1 million et c'est déjà pas mal. Alors, on va pas pleurer sur ton sort. Sortez pas vos mouchoirs. Nous, tout ce qu'on veut, c'est du mystère, de la concurrence sur la terre. Pourquoi pas laisser gagner Djokovic? Non, pourquoi tous les prétendants ont les mêmes noms qu'il y a 20 ans? J'en ai marre de vivre dans le passé. Quand le tournoi démarre, y en a qui se préparent. Ton nom leur fait pas peur, à part si t'as une sœur. Les victoires de Barty, de Groot ou Kamiji font pas chialer France 2 comme un seul de tes jeux. Alors, pourquoi les autres n'ont que dalle quand t'es sur le cours central? Nous, tout ce qu'on veut, c'est du mystère, de la concurrence sur la terre. Pourquoi pas laisser gagner Wawrinka? Non, pourquoi tous les prétendants ont les mêmes noms qu'il y a 20 ans? Interdisons le cumul des mandats sportifs.
Je suis désolée, Colline.
Moralité, Maë, il ne faut pas intervenir pendant les chroniques.
Tu as eu raison, Maë, d'intervenir. Et
j'ai eu raison. Merci. Mais bon, j'aurais dû regarder les paroles avant, peut-être. Ben, superbe chanson, mais je crois qu'on va tout de suite en direct de la Grèce, c'est ça?
C'est l'heure d'appeler Occitane.
On va appeler Occitane. Et ben voilà, ça sonne, écrit le portable de Félix. Trois petits points. Bonjour, Occitane. Occitane, tu nous entends?
Occitane?
Ah, elle nous entend, nous on t'entend un peu moins bien. Est-ce qu'on l'entend? Parle donc, Occitane.
Bonjour.
Bonjour, Occitane.
Je vous entends très bien.
Bah, où es-tu, Occitane, en ce moment? Dis-nous. Ah.
Allô?
Allô?
Vous m'entendez?
Ah, là, on t'entend mieux.
Oui.
Bah là, je suis chez moi. Je crois qu'il y a un léger décalage.
Ah bah, pas de soucis, tant pis.
Attends, on va se tenir l'oreillette avec le doigt pour faire comme à la télé.
Alors, Occitane, tu nous as préparé quelque chose?
C'est pas un léger décalage, là. Là, je crois que c'est un décalage de 3 minutes.
Moi, je vais préparer quelque chose. Ce sera peut-être plus simple. Alors, moi, je suis là, comme d'habitude, pour une chronique voyance.
Voyance.
Mais on t'attend, là.
Et vous savez, chers auditeurs et chères auditrices qui me connaissaient un peu désormais, que mon don de voyance est quelque peu capricieux. Il se manifeste un peu quand il veut et surtout quand je ne m'y attends pas. Hier soir, par exemple, j'étais avec mon ami Mohamed en haut du Strefi, une colline qui surplombe Athènes. Il me racontait que quand il était arrivé en Grèce, et plus précisément au City Plaza, il y a un peu plus d'un an, tous les habitants et habitantes du squat se retrouvaient là pour regarder les lumières de la ville le soir. À l'époque, ils ne comprenaient pas l'anglais, et la plupart des résidents et résidentes du Plaza parlaient farsi. Alors, ils se contentaient de rire quand tout le monde riait. Hier soir, nous n'étions que deux, et il essayait de m'expliquer des jeux de mots en arabe irakien. Plus tard, j'essayais de rentrer chez moi, mais mon coloc avait oublié les clés sur la porte. J'ai eu beau téléphoner, sonner, tambouriner, impossible de le réveiller. Je suis donc allée passer la nuit au City Plaza, et en repensant à l'esplanade vide du Strefi, j'ai eu une vision dont j'ai pu enregistrer le son.
Tu parles français, la voix française.
You finish your ship?
Something like that. But I have to be back to my ship because no one there.
I was have a shift, in the kitchen shift. I wake up like it's horrible when I wake up at 10. Really, all the time I wake up at 6 o'clock. And then I have to be impossible, like. And then I wake up at 10, I had a shift. And I had three shifts. Kitchen shift, and bar shift, and security shift. And then it's kind of stupid, you know? Yeah, but I enjoy, I listen to music, I prefer, I sit close to you, and then it's amazing, you know?
L'anniversaire du Plaza, une grande fête en l'honneur des 3 ans de l'occupation de ce grand hôtel désaffecté au centre d'Athènes, près du parc Victoria. C'était le 18 mai, et seulement une semaine plus tard, après les résultats catastrophiques des élections européennes et locales en Grèce, Tsipras annonçait la tenue de législatives anticipées. La droite va passer, c'est une certitude, les expulsions de squats qui se sont multipliées avant le scrutin n'ont pas suffi. Le Plaza doit donc être évacuer avant que le pouvoir et la police ne s'en mêlent. Et c'est dans ce mélange des temps que s'est formée la vision que je vous rapporte ce soir. Vision de l'évacuation, vision des galères individuelles qui en découleront, vision de Mohamed sur le lit voisin qui se tourne et se retourne sans parvenir à trouver le sommeil, vision de l'Europe qui, où que l'on se tourne, devient de plus en plus inhabitable et inhabitée, comme l'esplanade du Stréphy et comme bientôt la discrète utopie qui était le City Plaza. Pour moi.
Merci beaucoup Occitane pour cette chronique.
Merci Occitane.
Merci Rémi de me souffler mes répliques à l'oreille. L'animation est laborieuse ce soir, vous m'excuserez. Je crois que tout de suite on va passer à une nouvelle émission qu'Arthur nous propose. Arthur qui a l'air d'être endormi sur le canapé, mais c'est pas grave, je meuble, je suis hyper douée pour ça, comme vous vous en rendez compte, chers auditeurs, chères auditrices.
Un talent fou.
Il est 19h29 sur Transistor, vous savez quoi, on est en train de rattraper petit à petit notre retard. On va bientôt finir en avance, j'en suis certaine. Alors Arthur, dis-nous, comment s'appelle cette nouvelle émission déjà ?
L'esprit géographique.
Eh bien, on te laisse.
Eh bien, je vous présente ce soir le premier numéro de ma nouvelle émission, l'esprit géographique. Alors, nous partirons à la découverte des territoires français afin de saisir l'esprit des lieux que nous traversons au quotidien. Aujourd'hui, direction le Massif central, car pour comprendre la France, il faut comprendre le Cantal, aimé à rappeler le président Pompidou, natif du village cantalien de Montboudif. Alors, à première vue, on peut prendre cette remarque comme un hommage, un peu chauvin, à sa terre natale. Le Cantal est un département merveilleux, avec des paysages à couper le souffle. Le Puy-Marie, la forêt de la Margeride, les monts du Cézallier. Le Cantal, ce sont avant tout ces vieux bourgs, aux grosses pierres et aux toits de loz, à faire rêver comme Tournemire et Salaire. Que dire de ces rivières aux ondes pures, pleines de truites, comme la vallée de la Truyère ? Et je ne vous parle pas des marchés regorgeant de cochonailles à faire pâlir nos amis véganes. Le Cantal reste l'une des meilleures caricatures de notre pays. Mais à y regarder de plus près, cette ressemblance entre la France et le Cantal, si tant est qu'elle soit aussi frappante que le dit Monsieur Pompidou, serait sans doute une catastrophe nationale. Le Cantal est en effet un département sinistré. Non seulement il se vide de sa population depuis 2 siècles, on compte une perte de 120 000 habitants depuis 1830, non seulement son agriculture est entièrement subventionnée par l'État et l'Union Européenne, non seulement sa toute petite industrie connaît des difficultés considérables, les plus grandes entreprises d'Aurillac ont été placées en redressement judiciaire, mais en plus et surtout, plus personne ne s'y retrouve. La vie politique du département n'a plus aucun sens. Des scandales politico-financiers et des combines en tout genre éclatent dans chaque chef-lieu de canton. La justice y perd son latin et son prestige, et l'argent de la République est dilapidé avec la même frénésie que celui de l'Europe. Le Cantal ne ressemble donc pas à la France, mais plutôt à la Corse, sans les bombes. L'expression étant d'un ancien procureur de la République en poste à Aurillac. Il est vrai que le Cantal, perdu dans ses montagnes, sans TGV ni gare de route, ressemble un peu à une île coupée du monde. À part ses fromages et sa charcuterie, les seuls qui ont fait fortune sont les bougnats et les limonadiers descendus sur Paris. Allez savoir pourquoi, le Cantal est le seul département où on ne monte pas sur la capitale. Comme la Corse, le Cantal est double, avec d'un côté du Lioran, Aurillac, la préfecture, la ville Ratsoc, franc-maçonne, qui regarde vers Toulouse, et de l'autre côté du Lioran, Saint-Flour, siège de l'évêché, ville conservatrice au Christ noir, qui regarde vers le Puy-de-Dôme de Giscard d'Estaing. Mais ce qui rappelle peut-être le plus la Corse, de la Châtaigneraie à la Margeride, des bords de la Jordanne aux rives de la Serre, ce sont les chefs de clan, et cette étonnante difficulté qu'on éprouve à déceler qui détient réellement le pouvoir sur ce foirail politico-économique. Par exemple, le programme Leader Gerber vise à lutter contre le désenclavement et à encourager le développement économique du territoire. Bon, pour l'instant, on ne sait pas très bien où sont passés les millions européens de l'ami Gerber. Mais comme disent les Cantaliens, quand il y a de la subvention dans l'air, il ne faut pas refuser de se faire plaisir. Ce programme aura au moins le mérite de rendre un hommage à Gerber, l'enfant du pays, le pape de l'an 1000 qui naquit sur les bords de la Jordanne. Comme en Corse, la scène politique cantalienne est tenue par quelques ténors locaux, dont le plus sympathique, Jacques Mézard, récemment nommé par Macron au Conseil constitutionnel. Après avoir fait un tour au ministère de l'Agriculture, ce bon vivant, grande gueule, amateur de truffades, a vu de la lumière et a fait son entrée au ministère de la Cohésion des Territoires. Un comble pour un cantalien. On a l'impression que dans ce coin de France profonde, la justice s'y perd un peu, comme l'a bien montré Thierry Desjardins dans un article sur le département paru en 1996. Personne ne s'est jamais indigné quand un plaideur, libraire à Aurillac, en conflit avec le Crédit Agricole du Cantal, s'est étonné de voir parmi les 8 juges du tribunal de commerce d'Aurillac, devant lequel il comparaissait, 5 administrateurs de ce même Crédit Agricole et de reconnaître dans le président du tribunal l'administrateur de la librairie concurrente. Curieuse justice. On aurait pu croire que ça allait être la goutte d'aligo qui allait faire déborder la marmite. Mais non, dans le Cantal, les affaires disparaissent dans le silence éternel des antiques burons, débris de la civilisation rurale cantalienne. Beaucoup de choses rappellent la Corse sans les bombes. Certes, ailleurs aussi, on conteste de plus en plus ces tribunaux de commerce, et dans beaucoup de départements ruraux, certains vivent de plus en plus mal l'omniprésence et l'omnipuissance de ce fameux Crédit Agricole. Mais dans le Cantal, le vrai pouvoir... Mais dans le Cantal, le vrai pouvoir, ce n'est ni l'administration ni le politique, c'est le syndicalisme agricole. Les hommes qui tiennent la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles tiennent en même temps et partout un système de toile d'araignée. La chambre d'agriculture, le crédit agricole, les mutuelles sociales agricoles, la salaire et toute une série de coopératives auxquelles les agriculteurs achètent ce dont ils ont besoin et vendent leurs produits. Finalement, l'homme fort du Cantal, ce n'est ni le préfet, ni le président du conseil général, ni le maire d'Aurillac, c'est le président de la chambre d'agriculture. Par personne interposée, il tient tout le système, l'achat des terres, l'attribution des prêts et des aides, les coopératives, tout. Et il peut du jour au lendemain faire descendre 10 000 agriculteurs dans la rue. Ce pouvoir occulte entraîne inévitablement le copinage, les injustices et l'esprit clanique. On peut se demander si ce n'est pas là une des conséquences les plus dangereuses de la décentralisation. Bref, coincé entre les autoroutes A20 et A75, le Cantal continue à siroter sa liqueur de gentiane dans l'indifférence générale.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'on fait ici ?
On tourne la scène des adieux.
Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est la dernière...
émission nocturne en direct.
Eh hey, dis donc, à l'année prochaine !
Carrément sauter devant vous, maintenant là en direct, le studio.
Mais c'est l'heure de des poils plein les yeux! Générique!
C'est bourgeoise qui s'épile, ça me rate, ça me barre, ça me pile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir. C'est bourgeoise qui s'épile, ça me rase, ça me barre, ça m'empile. Dans un monde aseptisé, je suis politiquement incorrect.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre jeu des poils plein les yeux. Alors j'ai écrit « On n'imaginait pas la Garden sans lui » parce que oui, c'est le jeu que j'ai écrit pour le 27 avril de la Garden. Je n'y ai pas touché, je le redécouvre en même temps que vous, fallait pas non plus abuser des bonnes choses. Donc c'est des poils plein les yeux, Transistor vous retrouve sous le beau soleil de Debourg. Oui, ben j'ai écrit le lancement hier, ça marche aussi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, celle qui présente et qui parle beaucoup trop, c'est Colline Lafontaine, et ceux qui sont volontaires ou presque pour jouer ou perdre, aujourd'hui à ma gauche, comme d'habitude, c'est l'équipe Porc et Pic composée de Rémi et Arthur qui n'ont qu'un seul micro.
Ah bah bonjour.
Bonjour Colline.
Avec des accents formidables. Et l'équipe qui était bien mais qui est plus bien, c'est les qui est plus bien, Maë et Arthur aussi. Retrouvez-vous-y comme vous pouvez. Bonjour.
Bonjour.
Bon, on est ravis d'accueillir les petits nouveaux.
Moi, j'ai été juste traquenardé à l'instant, en fait.
Ben, c'est le principe. Bravo, Arthur, c'est le principe du jeu. Alors, les porcs épiques, bien ou bien ? C'est une question.
Bien la famille, wesh les amis.
Super, merci. Les qui est plus bien, est-ce que vous avez une idée pour résoudre la faim dans le monde ? Alors, Maë tente des trucs radiophoniques,
de rater un
mais
truc.
C'est pas ouf. Écoute, Maë, tu t'entraînes.
Voilà.
Quand tu y arrives, tu nous fais signe. On prend une pause, on t'écoute. Donc,
les claquements de capote pour réduire la faim dans le monde, c'est...
Maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, passons à la première manche, inspirée d'une manche du Burger Quiz à notre sauce, la sauce au poil. Attention, nous jouons pour deux poils de jambe. Donc, deux touffes par bonne réponse. C'est une épreuve de rapidité. La première équipe qui a la réponse me la crie dans son micro. Attendez bien la fin de mes constatations avant de me dire à laquelle des deux catégories correspond ce que je dis. Les deux catégories du jour sont Gérard Collomb, Christophe Colomb ou les deux. C'est parti. Il n'est plus... Si, on me dit dans l'oreillette qu'il est toujours maire de Lyon.
Gérard Collomb.
Gérard Collomb, tout à fait. À un moment, clairement, il a viré de bord.
Les deux,
mais tout à fait. C'est une... Mais alors, qui est-ce que j'ai entendu en premier? Félix, aide-moi, je ne sais plus. C'était Rémi, j'ai l'impression. C'est vrai. Est-ce que je m'auto-persuade? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait égalité. Il est franc-maçon.
Les deux.
Gérard, tout à fait, c'est Gérard, c'est Maë qui a la bonne réponse.
J'ai réussi un truc.
Christophe n'était pas franc-maçon.
Complot maçonnique.
Je n'ai pas évoqué de complot, Rémi. Son nom ne prend qu'un L.
Les deux.
Christophe Colomb.
Christophe, tout à fait, c'est Christophe qui prend un L et Gérard en prend deux pour voler de ses deux ailes comme un avion. Voilà. En 1975, il était maire de Lyon.
Gérard Colomb, aucun des deux. C'était Francisque Colomb.
Francisque, mais tout à fait. Alors là, Rémi, je te fais un double point parce que c'est Francisque.
Et aucun lien de famille entre les deux. Hein.
Exactement ça. Mais y a-t-il des règles, Maë?
Je ne crois pas. Au début.
Sacré Francisque, il n'est jamais là où on l'attend. Alors, il a un cratère à son nom sur la Lune.
Christophe Colomb.
Christophe, tout à fait.
Non,
et c'est Arthur. Non, deux cratères Colomb, c'est quand même un peu beaucoup.
C'est bizarre de parler de cratère et de Colomb en même temps, non?
Tout à fait. Alors, tu remarqueras que je n'ai pas fait de blague scatophile. Enfin, il reste une question, mais pour l'instant, on évite la scatophilie. On en a une interview exclusive sur nos...
Gérard Collomb,
exactement. Et c'est Arthur qui m'a dit cette bonne réponse. Ouh là 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 là. Eh ben c'est Gérard, on a dit. Les Képubiens, vous êtes vraiment dans une sale impasse. Hein.
C'est toujours pas bien.
C'est
hein.
Nous les Képubiens.
Oui, c'est vous les Képubiens. Donc les Képubiens, vous avez donc 4 touffes, alors que les porcs et piques en ont 12. Enfin bon, vous pouvez peut-être vous rattraper.
Oui, oui, oui.
Il ne reste que 2 manches.
Public, poil de bique, je chante pour les filles, poil où je suis, je chante pour Huguette, poil de quéquette, je chante pour Marguerite, poil en frite.
Voilà, merci la régie, toujours pour cet interlude musical de qualité. Pour la prochaine épreuve, celui qui a le plus de poils choisi, donc c'est clairement les porcs épiques. Donc, vous préférez les questions assez évidente des films qui n'existent pas ou bien un questionnaire assez simple sur l'actualité.
Les films qui n'existent pas.
Les films qui n'existent pas, c'est parti. La virgule ?
C'est alors que plein d'idées poilues sont sorties de ma tête, faisant la ronde et chantant à tue-tête. Nous, on veut pas aller à l'école.
Alors, tout de suite, dans La planète des singes, tous sur Mars, quel énorme problème vient réconcilier les deux espèces qu'on pensait fâchées à vie ?
Bah, c'est tout simple, c'est le racisme, la plus grande valeur universelle face aux martiens, ces saloperies qui viennent nous envahir.
Mais ça m'a l'air d'être une bonne réponse, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'encore plus fort qui viendrait les unir vraiment, tu vois ? Qui viendrait effacer leurs problèmes passés ?
J'aurais bien dit un amour commun pour le Bridmo, mais j'ai l'impression que c'est pas ça.
Bah, c'est vraiment au tout début du film, quoi. Donc, mais malgré tout, vous m'en avez dit deux. Y a rien qui vous vient, là, tout de suite, maintenant ?
Oh, une légère envie de roter.
Écoute, pour cette magnifique spontanéité, je vous accorde le point. Vous avez quand même dit deux choses de juste. Alors, nouvelle question. Quel nouveau membre, inattendu dans l'univers des comics, compte le... Des comics inattendus dans l'univers des comics que compte le clan des Avengers dans le dernier opus Infinite War and so on until the public die. Donc, qui est le nouveau membre de la crew Avengers ?
Je pense très clairement que c'est Spider-Woman, le fils de la fille de la fille de la fille du fils qui a changé de sexe entre temps.
Oui, mais en même temps, ça fait toujours partie de la famille. Enfin, on s'y attendait un peu. C'est pas tellement un crossover.
Mais c'est le principe de ces séries, non ?
Bah justement, là, c'est vraiment quelque chose de très surprenant. Enfin, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas remarqué ce nouveau personnage.
Ah mais, Francisco Colomb.
Francis Colomb, quand même. Il y avait un indice, parce que l'émission est bien construite, figurez-vous. Bon, il y a aussi Philippe Martinez dans un coin qui fait cuire des saucisses, et ça, c'est vraiment quand même extraordinaire. Donc, je vous accorde le...
Je me suis arrêté à Avengers 8, désolé.
C'est pour ça que tu ne fais pas partie de ce questionnaire, Arthur. Tu auras les questions d'actualité.
Philippe Martinez, c'est pas dans saucisses.
C'est déjà passé, Rémi. Alors, ben, j'ai une dernière question. Ah bah, ben, ça va être marrant comme dernière question. Dans la dernière saison de Game of Thrones, donc quand j'ai écrit cette chose-là le 26 mars, quel personnage a l'honneur de tuer Cersei Lannister ?
Raymond Barr.
Raymond Barr, mais alors comment ?
Ben, c'est une apparition fantomatique vu qu'il est mort depuis 2008. Ouais. Et il tue de peur Cersei Lannister.
C'est vrai que c'est une scène très belle. Alors, est-ce que tu peux me décrire la lumière un peu du...
Eh ben, Raymond Barre est une apparition ectoplasmique. Raymond Barre est beau. Raymond Barre est rond comme la lune. Raymond Barre est gros. J'ai tout ce que j'ai à dire.
Oui, puis il y a une espèce de lumière bleutée qui est posée dessus. Et que, genre, filmé en scope comme ça, là, on voit vraiment, ça prend toute la largeur du champ. Ouais. Et pour l'avoir vu en salle, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire.
Ouais,
parce que
t'as
cette espèce de halo autour de Raymond Barre qu'il n'avait pas de son vivant.
Wow.
Et donc, ça change, quoi.
Mais je vois que vous l'avez regardé plusieurs fois. Enfin,
Raymond
vraiment. Bah oui, Raymond Barre. Bah, écoutez, bravo. Vous êtes excellent sur les questions des films qui n'existent pas. Et bien, tout de suite, on va passer aux questions assez simple sur l'actualité. Je vous souhaite une aussi grande chance.
J'ai pas compris le jeu.
Tu vas voir, Maï.
Omar sauce tomate, il a fait du poil aux pâtes Élysée. Oh, si. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Élysée. Oh, si.
Alors donc, maintenant, je vous pose des questions d'actualité, mais du coup d'actualité du 27 mars, puisque j'ai écrit cette émission le 27 mars. Mais donc, ce sont des questions réelles. Je cherche des réponses précises et réelles. Non, pas comme eux.
D'accord.
Puisque eux, pour expliciter un petit peu, donc c'était des films qui n'existent pas. Je fais semblant que ces films existent, mais en fait, ils n'existent pas. Et je note la créativité.
C'est super élaboré comme jeu.
Voilà, complètement. Merci de m'avoir fait détruire tous ces sous-entendus en direct. Donc vous avez des vraies questions et j'attends des vraies réponses.
Ok.
C'est moins drôle, en fait.
Première question.
Parce que vous êtes moins drôle aussi.
C'est vrai qu'on est vachement moins rigolo.
Quel événement récurrent a-t-on pu observer 3 jours de suite sur le plateau de TPMP la semaine dernière ? Donc du coup, il y a un mois et demi.
Je sais pas, une blague sexiste ?
Oui, mais autour de Pâques, je vous aide.
Ah.
C'était autour de Pâques.
Ah, un lapin qui s'est baladé dans le public en balançant des œufs à tout le monde ?
Ah non, il n'a pas balancé des œufs, il n'y avait pas de lapin, mais c'est un rapport avec balancer des trucs, ouais.
Ah ouais ?
Du chocolat dans un slip ?
C'est du chocolat, mais pas tout à fait sur un slip.
Du chocolat dans la figure.
C'est
un tartage au chocolat.
Et tout à fait. Pendant 3 jours de suite, et même plus, parce que je ne savais pas avant d'écrire, quand j'ai écrit ça, Cyril Hanouna a balancé du chocolat sur ses, invités. Bon, je peux pas refaire le dispositif là parce qu'avec Félix, on n'a pas eu le temps d'installer les lanceurs à chocolat, sinon on l'aurait fait quoi. C'est dommage.
Pomme-pote, si tu veux.
Mais du coup, vous avez quand même le point. Question numéro 2. Hier, nous étions un jour particulier. Nous étions vendredi. Oui, mais surtout, quelle journée internationale était-ce le 26 mars ?
C'est pas la journée contre l'esclavage, hein.
Alors, ce n'est pas la journée contre l'esclavage, c'est forcément une journée pour une minorité, mais pas
ouais,
les esclaves.
Ouais,
mais... non, on va dire que c'est, ça a plus à voir avec un spectre LGBT, QI+. Mais surtout, LGBT.
La journée mondiale des lesbiennes.
De quoi des lesbiennes ?
De la liberté de ne pas être internée en asile psychiatrique. Quand
alors, écoute Maë, ce serait vraiment une très belle journée, mais non, c'était la journée internationale de la visibilité des lesbiennes, puisqu'on dit toujours que les lesbiennes sont invisibles, comme le spectacle.
C'est quand même un super pouvoir.
C'est un super pouvoir, voilà. Bah, t'en parleras aux lesbiennes que tu connais autour de toi. Et troisième question. En ce moment, une grande dépression s'abat sur un pays, ou Kenneth, si vous voulez appeler ce cyclone par son petit nom. Mais du coup, Kenneth, il ravage quel pays ?
C'est toi le géographe, non ?
T'es pas en géographie, toi aussi ?
Je suis en sciences sociales, ça n'a rien à voir.
Il me semble que c'était pas aux États-Unis.
Alors, c'était pas du tout aux États-Unis, oui. Sinon on en aurait entendu
pas
parler.
La Nouvelle-Calédonie, ça me vient,
je suis sûre que c'est l'Azerbaïdjan.
Non, alors c'est pas du tout l'Azerbaïdjan.
Je sais pas, c'est un peu vieux l'actualité du 22.
Ouais, je pense que le pays qui a subi cette tornade n'apprécierait pas du tout que tu considères que cette tornade ne soit pas d'actualité, Maë. Enfin, l'actualité, c'est quand même c'est... toujours renouvelé, quoi.
C'est
À l'échelle de l'humanité, c'est très très récent.
C'est en Asie du
Sud-Est, non ? Franchement, je crois pas.
D'accord.
Ah, et eh ben.
Je peux pas vous le dessiner, mais.
C'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, donc si je commence à faire la liste.
Ouais, ça ressemble à Mozaïque.
Mozambique.
Oui, c'est le Mozambique.
Ah, mais j'ai trouvé la réponse toute seule, dis.
Bravo, bravo Maë. Écoute, ouais, c'est
ça,
pas
ça
du tout.
Ça m'est revenu comme ça, si je réfléchissais.
C'est pas du tout, du tout, parce que vous avez 10 points de retard que je vous donne des indices. Donc, je fais un petit bilan. Les porcs épiques, vous avez 15 points.
Quand t'as dit que j'avais bien.
Et les... Bon, on me laisse finir ma phrase, s'il vous plaît, merci. Du coup, les képubiens, vous avez 6 points.
Tu lapin plein de poils, tu lapin plein de poils, tu lapin plein de poils partout. Par devant, par derrière, par dessus, par dessous, tu lapin plein de poils partout.
Alors voilà, puisque cette émission n'a vraiment aucun sens, que c'est une émission du passé, qui est dans le futur, machin, bah j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de questions longues et chiantes, où à la fin vous devez crier la réponse, parce que la réponse est dès le début. Donc je me suis dit qu'à la place, on ferait plutôt un Shifumi. En 3 manches.
Wow.
Donc
non, j'ai mes chances là.
Et ben, et du coup, l'équipe qui gagne le Shifumi en 3 manches double ses points. Je vous annonce tout de suite que même si vous gagnez vos points, même si vous doublez vos points, vous avez perdu quand même.
Oui. Mince.
Mais vous pouvez vous battre.
Pour l'honneur.
Pour l'honneur et voilà. La dignité.
Et les poils de jambes.
Et les poils. En fait, ça vous rapporte une moustache.
Ah.
Voilà.
Oui,
oui pierre-feuille-ciseau, si vous
moi,
voulez.
Moi, j'appelle ça papier-caillou-ciseau.
Ouh là là, bah là, on va pas du tout s'entendre. On va pas du tout s'entendre.
Ça compte le
puits,
va...
Non, ça compte pas le puits, on reprend. On reprend
tout
de suite.
Met...
Stop. On reprend. Les règles, donc, on met la main derrière son dos. Donc, non, on va pas le faire à quatre, là. Qui le fait dans chaque équipe ?
Vas-y.
On va faire Arthur contre Arthur.
Ah, très bien.
Les deux Arthur.
La battle Arthur.
Non, allez, vous étiez partis.
Non, il y a une amitié quand même.
On fait Maë contre Rémi. Donc, le jeu, c'est vous faites chi, fou, mi avec la main dans le dos.
Ouais.
Et à mi, vous sortez, vous avez le droit au ciseau qui coupe le papier. Le papier qui englobe la pierre. La pierre qui casse les ciseaux. Voilà,
jamais
donc il n'y a pas de
compris puits. Comment ce truc pouvait niquer une pierre. Hein, mais...
Alors, c'est parti.
Ouais.
Chi, fou, mi. Bravo, donc c'est Rémi qui vient d'englober la pierre de Maë avec son papier. Chi, fou, mi. Et on recommence exactement la même situation, incroyable. Chi, fou, mi. C'est une égalité de papier. Maë, arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Alors, je vous épargne le salut nazi, là, c'était pas possible. Bon, allez, on recommence. Chi, fou, mi. Et... 3-0, c'est définitivement les...
Putain, mais elle est trop nulle. Arthur gagne un truc 2019.
Elle est dans ton équipe, Arthur.
J'ai dit, on est trop nulle.
Ah. Je suis champion de Shifumi Bouche du Rhône 1994.
C'est donc avec un record, je pense, de 30
plus,
points, les Képubiens, que vous accéderez à la finale.
Moi, je joue avec le puits, vous êtes.
Eh, hey, Thomas Brunel, si tu nous...
La finale de Booba. Bon, du coup, c'est vous, les Képubiens, qui allez à la super finale qui vous permettra de retrouver la liberté. Lequel d'entre vous...
Oui, non, c'est nous, les Képubiens.
Les porcs épiques. Ah, c'est vous, tard, les porcs épiques. Arthur, merci. Tu seras mis à contribution, Arthur, dans une seconde. Alors, donc, les porcs épiques, c'est vous qui allez à la super finale. Vous allez peut-être retrouver la liberté. Lequel d'entre vous défendra votre honneur ? C'est Arthur qui est désigné. Très bon choix, il me semble. Non pas Rémi que je te dénigre, hein. C'était pas du tout ça mon intention. Donc,
je vais me faire défoncer.
La règle est simple.
Le bilan moral,
la règle est simple. Ah là là, je n'entends rien. Je vous pose une première question. Vous me répondez rien. Puis à la deuxième question, vous me donnez la réponse à la première question, et ainsi de suite. Bon, donc là, normalement, je me tourne vers Jean-Baptiste, mais il n'est pas là. Donc, Arthur, est-ce que tu veux bien faire semblant d'être Jean-Baptiste ? Comme ça, je te pose les questions. Dis
okay,
oui, Arthur. Voilà, merci.
Donc,
Jean-Baptiste, quel est ton animal préféré ? Donc là, tu ne me réponds rien, voilà. Qu'aimerais-tu manger à midi ?
Le cacapo.
D'accord, c'est très original. Quels vêtements portes-tu quand tu as froid ?
Des pattes.
Super. Donc merci Jean-Baptiste, vous avez compris le principe ? Alors, c'est parti.
C'est pas le def.
Question rimée. Qu'est-ce qui rime avec un chêne pédonculé ? Quel surnom vous donnent vos parents ?
Enculé.
Qu'avez-vous mangé à Noël ?
Ma belette.
Il s'appelle comment le maire de Lyon du coup ?
La truffe.
Si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi ?
Connard Gérard Collomb.
Selon vous, qu'est-ce qui est plus fort qu'un éléphant ?
Un homard.
Et enfin, qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend ?
Un rhinocéros.
Dernière réponse ?
Un petit pois dans un ascenseur.
Et c'est une finale réussie ! C'est une finale réussie.
Avec la petite citation de Yorgos Lanthimos qui va bien au milieu avec quel talent.
Bon, Rémi, tu es d'accord avec moi, c'était un bon choix, Arthur.
C'était un très très bon choix, mais je l'ai toujours dit.
Mais Rémi, je compte sur toi pour participer à de prochains jeux et que tu puisses gagner une prochaine finale. Dis-le dans le micro, Arthur, dis-le dans le micro.
Je tiens à dire quand même que c'est la première fois où je participe et je réussis là où Thomas n'a jamais réussi au bout de trois fois.
Si, il a gagné une fois,
Thomas. Au bout de trois fois.
Oui, c'est vrai. Écoute, Arthur, j'ai toujours su que tu ferais un candidat formidable. Et c'est ainsi...
Thomas, si tu nous écoutes...
Et c'est ainsi que nous finissons cette émission dans la joie et la bonne humeur. J'envoie le générique de fin.
Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me barre, ça me rupile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me barre, ça me rupile. Dans un monde aseptique, c'est, je suis politiquement incorrect.
Eh bien, bonjour Titouan. Titouan, ça va ?
Titouan, tu nous rejoins.
Bien, merci.
Parce que figure-toi qu'on a perdu une chroniqueuse en route, hein, Sarah, on t'attend toujours. Si tu nous entends, la porte était encore grande ouverte. Mais donc tout de suite, on va passer à la chronique philosophie de Titouan. Déjà, est-ce que tu as eu le temps de reprendre ton souffle après les escaliers, la course depuis
le
NS ?
Ouais, c'est bon, je m'en sors à peu près. Au pire, je le prendrai pendant ma chronique.
Oui, d'accord. On te servira un petit verre.
Voilà
ça.
Un jean STP.
Écoute, je vais faire la barman. D'un woman, pardon. Mais.
Barmaid.
Ok. Titouan.
C'est
t'écoute.
Bon. Allez, go. Donc, ouais, c'est bientôt les vacances. Une période qui n'est pas forcément la plus propice à l'exercice de la philosophie. Et pour cause, difficile de s'enfoncer dans un doute radical en même temps que dans l'eau tiède d'une plage italienne. De même, dans cette situation, compliqué d'annoncer du Platon, pour qui le corps est un tombeau enfermant l'âme, et l'activité philosophique consiste à s'occuper de rien d'autre que de mourir et d'être mort. Oui, oui. ce serait jeter une ombre certaine au tableau. Brisons-la. Le week-end dernier, je buvais un rosé piscine en faisant une partie de dames lorsqu'un de mes neveux m'agresse avec une balle aux couleurs vives. Elle était estampillée Coupe du Monde 2019. Et là, je me rappelle. On devait attendre 4 ans en principe après la victoire des Français face à la Croatie, mais cet été, c'est reparti. Cet événement qui rassemble tout le monde, en dépit du bon sens d'ailleurs, a lieu une nouvelle fois. Et cette année, ce n'est pas n'importe laquelle des Coupes du Monde de football. Elle se passe en France et surtout, c'est celle des filles. Alors oui, les filles ça sert à rien, comme le répète à l'envi mon neveu de 8 ans, notamment si on lui demande s'il a une amoureuse, mais il y a là matière à réflexion sur le jeu en général. Plus précisément, qu'il s'agisse de jouer aux dames ou au foot, comment se fait-il que femmes, hommes et enfants s'y adonnent avec passion? Et mieux, pourquoi jouons-nous à la fois avec le plus grand sérieux et la plus grande légèreté? Dans un livre qui passe pour incontournable en la matière, Roger Caillois répertoriait les types de jeux en 4 catégories. Aléa définit les jeux de hasard comme la roulette, Lagone ceux qui impliquent la compétition telle notre Coupe du Monde, Mimicry définit les jeux de mime et de scène, tandis que Ilinx renvoie aux jeux provoquant le vertige tel que le saut à l'élastique. Par cette typologie qui a pour elle d'être exhaustive, Caillois va assez loin et fait une véritable sociologie à partir du jeu. En effet, la société, comme l'évolution du jeu, témoigne selon lui du même mouvement d'organisation, de plus en plus complexe. Mais à voir mes neveux jeter leurs ballons dans tous les sens à mes dépens, on peut bien se demander s'ils font une quelconque œuvre de société. Plutôt que d'identifier le jeu et la vie sociale, Jean Baudrillard se propose de penser le jeu dans son opposition au monde légal. Je le cite. « Nous vivons communément dans l'ordre de la loi, jusqu'à y compris dans le fantasme de l'abolir. Or, ce qui s'oppose à la loi n'est pas du tout l'absence de loi, c'est la règle. » Ainsi, le plaisir du jeu consisterait dans une forme de libération paradoxale qui implique de se soumettre à la règle. Je continue. Parce que la loi, que ce soit celle du signifiant de la castration ou celle de l'interdit social, se veut le signe discursif d'une instance légale, d'une vérité cachée, elle instaure partout l'interdit et le refoulement. La règle ne connaît pas de refoulement, ni la distinction du manifeste et du latent. Elle n'a tout simplement pas de sens et ne mène nulle part. Ainsi, le respect de la règle délivre de celui de la loi. Quand on joue à un jeu, on oublie tout de cette finalité, de cet interdit moral qui vaudrait de manière transcendante et suprême. Il ne reste plus rien de cette objectivité qui nous scinde intérieurement lorsque nous tentons de nous y conformer. Et on peut imaginer que cela vaut aussi pour ceux qui suivent le jeu. Si les supporters et supportrices exultent comme vendredi face à la Corée du Sud, c'est finalement autant parce qu'ils assistent à une performance héroïque que parce qu'ils sont libérés, au moins le temps d'un match, du principe de réalité. Quand on se retourne vers les tribunes alors, on comprend que c'est un petit miracle qu'autant de personnes arrivent à se faufiler en douce à l'insu de la vraie vie et de ses pressions. Mais en quoi le jeu est-il l'occasion d'une rencontre? Restons avec mes neveux. Si l'un d'entre eux crie qu'il n'y a pas but, sous prétexte que le ballon est passé trop haut, ou bien l'autre se rangera à son avis, ou ils parlementeront pour trouver d'étonnants compromis. Un demi-but peut-être? Aucun des deux n'ira préférer ce qui s'est effectivement passé, au consentement de l'autre. Ils choisissent toujours le consentement de l'autre. Ce qui est convenu vaut désormais. Ainsi, il suffit de l'accord de deux personnes pour que l'édifice rationnel des adultes s'écroule au profit d'une mystérieuse cage de foot, assez grande pour les accueillir tous deux. Ce jeu dont les règles sont fluides et vécues, ce jeu magique, est-il vraiment oublié des adultes? Eh bien, pour Baudrillard, c'est ce même rapport qui est précisément à l'œuvre dans la séduction. Là encore, il n'y a pas de fin directe, et la séduction se fait à l'exclusion des conventions sociales. Mais surtout, la règle réside dans un certain secret. Celui-ci, indicible, insensé et respecté par les deux personnes qui se plaisent. Obéissant comme en miroir au regard de l'autre, elles sont alors mues autant qu'elles agissent. Je cite « Le secret, qualité séductrice, initiatique de ce qui ne peut pas être dit parce que ça n'a pas de sens, de ce qui n'est pas dit lorsque ça circule quand même. Et l'intensité entre les deux n'est que ce secret du secret. » C'est beau, hein? Eh bien, il est probable que cette intensité-là se retrouve jusque dans nos stades de foot. Ainsi, tandis que la vie sociale n'offre qu'une légalité qui nous sépare objectivement, le jeu est l'occasion d'une rencontre arbitraire, débarrassée de sa prétention au réel. Et les enfants, comme les sportives, l'ont bien compris. Et leurs mains boueuses se croisent, façonnent la balle magique du vivre ensemble. Par ailleurs, le jeu comme la séduction sont attirants parce qu'ils n'ont pas de raison, et précisément parce qu'ils existent pour rien. Et si mon neveu affirme trouver les filles inutiles, il est probable que cela soit exactement ce qui le fascinera dans pas si longtemps. À commencer par cette prometteuse Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Titouan.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
On tourne la scène des adieux.
Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est la dernière
émission nocturne en direct.
Eh dis donc, à l'année prochaine.
Père carrément sauter devant vous, maintenant là en direct, le studio.
Et tout de suite, parce qu'on est dans Transistor Veille et qu'on est plein d'énergie, il est 20h02 et on est en train de rattraper notre retard. Tout ça grâce à Sarah. Je crois même qu'on est en train de prendre de l'avance, les amis. Je trouve qu'on est quand même super doués. On devait à 20h06 avoir une chronique incroyable de Colline. Il est 20h02, je crois qu'on va avoir une chronique incroyable de Colline.
Oui, mais alors attention parce que ce n'est pas Colline, mais c'est Nini, c'est la standardiste de Transistor. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir Nini.
Quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, est-ce maintenant, est-ce plus tard, ce qui est certain, c'est que vous trouverez ici une oreille attentive, une voix réconfortante et des réponses à vos questions. Je suis donc Nini, la standardiste de Transistor, et vous pouvez me laisser un message à toute heure du jour et de la nuit au 06 70 96 53 35. J'écoute toujours attentivement vos remarques, encouragements et questions, et réponds toujours avec une sincérité à toute épreuve. Tout de suite, on écoute le premier message de la soirée. Il nous vient de Pierrick, qui nous écoute d'Alérac, un petit village de 46 habitants dans la Drôme.
Bonjour Nini, j'écoute régulièrement Transistor et je suis toujours ravi des programmes de qualité, mais si je vous appelle aujourd'hui, c'est que je ne suis vraiment pas content, je suis en colère, Nini. Il faut que ça sorte. Je suis tombé sur le numéro 5 de Dérapage Contrôlé, cette formidable émission de rap de Corentin Roquebert. La stupeur. Il n'y a pas d'autre numéro. Un numéro 5 et c'est tout. Pas de 1, pas de 2, pas de 3, pas de 4. Voulez-vous nous faire croire qu'ils n'ont jamais existé? Comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir en sachant que vous censurez purement et simplement une expression libre et artistique de qualité? Honte à vous, Transistor! Honte à vous!
Alors, Pierrick, vous soulevez un problème tout à fait improbable, je dirais même incompréhensible, et je vous prie d'accepter toutes nos excuses. Soyez certain que j'en informe immédiatement Rémi Cerda, notre responsable des mises en ligne, qui se met au travail sans tarder. Pierrick, ne nous quittons pas, ne restons pas en mauvais termes. En gage de notre bonne foi, je vous propose d'écouter tout de suite, en direct ce soir, un extrait de Dérapage Contrôlé, émission qui est chère à nos cœurs.
Pourquoi maman ne m'a-t-il pas abandonné? Mais pourquoi maman ne m'a-t-il pas moins donné? Depuis tant d'années, enfance Yous, on se connaît. Depuis tant d'années, toujours pas condamné. Pourtant je suis sorti de ton condamné. T'achetais que je l'ai ratatiné, racistané. T'aurais au moins pu me faire naître basané. T'aurais dû m'avorter, me faire canner. Tant qu'on y est dégraissé, mon porte-monnaie.
Et pour finir sur les réconciliations, vous pouvez également écouter 4 créations de Corentin Roquebert, qu'on embrasse, sur Arte Radio Média à la hauteur de sa surprenante créativité. Allez, tout de suite, un deuxième message.
J'appelle pour avoir des nouvelles d'une série qui semble en état de mort cérébrale. Qu'en est-il des 12 travaux d'anthropocène? Je pense qu'on attend tous la suite des travaux d'Héraclès. Aucune nouvelle depuis un bon bout de temps maintenant. Doit-on en conclure que la suite n'a pas été validée par la rédaction? La série s'arrête-t-elle en cours, laissant les fans sans espoir? Merci de nous répondre enfin.
Bon, alors, tout d'abord, merci Anne et à tout le fan club des Amis d'Héraclès que vous présidez et qui a toujours, toujours apporté leur soutien indéfectible à l'émission. Je dois vous avouer que le contact est très difficile avec l'auteur de la série qui a... Ah oui, mais on me dit tout de suite en régie que nous tentons d'appeler Jean-Baptiste Varito, le co-créateur et co-auteur de cette série. Jean-Baptiste, vous nous entendez? Ça sonne. veux qu'il réponde.
Allô ?
Allô, allô, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Nini à l'appareil, la standardiste de Transistor. On vous appelle pour avoir... Bonjour, on vous appelle pour avoir des nouvelles d'Héraclès. Et encore une fois, c'est une réponse vide qui nous attend de la part de cet auteur qu'on embrasse quand même avec sa co-autrice Colline Lafontaine. Bon, tout de suite, c'est l'heure du dernier message de la soirée.
Bonjour Lini, j'appelle pour réagir sur l'édito scientifique du 28 février. Maxime, est-ce que tu n'as pas l'impression de faire beaucoup de généralités en disant que l'abeille de Wallace est 4 fois plus grande que l'abeille à miel ? Quand on sait qu'une abeille a une taille qui varie entre 9 et 15 mm selon son espèce, et qu'il y a un écart de plus de 10 mm entre les abeilles de Wallace femelles qui mesurent 39 mm et les mâles environ 23, son affirmation semble très approximative. Je me questionne sur le sérieux de cette émission. Tu devrais dire plus Pocapi ou Science et Junior. Je doute de tes sources.
Encore une fois, ce sont vous, nos fidèles auditeurs et auditrices, qui êtes nos meilleurs critiques. Merci à cette éminente scientifique pour son analyse remarquable. C'est une chance de l'avoir sur notre antenne. Elle est très occupée de son CM2. Je vous mettrai en lien, bien entendu, avec l'auteur de ces éditos scientifiques, dont on ne remet pas du tout en cause la qualité, qui se trouve toujours améliorée par vos remarques et suppositions. C'est l'heure de rendre l'antenne. Mon cœur, ma voix et mes oreilles sont à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Continuez de nous laisser des messages sur le standard. Nini sera toujours là pour y répondre.
Merci beaucoup Nini, je crois que tu viens de lancer un mythe sur Transistor. On a hâte de continuer à t'appeler et de continuer à t'écouter surtout. Il est 20h08 sur Transistor, Transistor veille, Transistor est encore très réveillé. Et Arthur d'ailleurs est devant son micro et va nous parler des guignols.
Oui, j'ai décidé de vous faire écouter quelques archives nécessaires et qui font tristement ou parfois joyeusement écho à ce que l'on vit aujourd'hui. Je souhaitais vous faire écouter des vieux extraits des Guignols, ici de 97, quand Chirac et Juppé, avec une certaine arrogance, décidaient de faire passer certaines des pires mais réformes néolibérales dans notre pays. Je vous les laisse écouter comment les Guignols parodient ça avec génie.
Emploi avec l'annonce ce matin d'un nouveau plan pour arrêter la progression du chômage. Alors cette fois, c'est quoi, monsieur Chirac ?
C'est nouveau. Mais voyez-vous, monsieur Darvor, tant que le chômeur est à l'école, à l'université, on lui donne une bourse. Tout va bien. Quand le chômeur devient une personne âgée dépendante, on lui donne une allocation. Tout va bien aussi. Le problème, c'est entre les deux, quand le chômeur est au chômage.
Ah oui, et qu'est-ce que vous allez faire alors ?
On fait le traitement économique du chômage. On diminue les CES, on resserre le CIE, on limite le RMI et on crée le système ISD.
Ah, ISD, c'est quoi ?
ISD, merde.
Sans transition, je reçois un Juppé.
Bonsoir.
Alors, monsieur Juppé, hier, 350 000 personnes ont manifesté partout en France. C'est un mouvement très populaire. Vous y avez été sensible ?
Ah oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai passé la journée à la fenêtre avec un bloc-notes. Vous pensez, 350 000 économistes supérieurement intelligents dans les rues, je ne voulais pas rater ça. C'est pas tous les jours qu'on a 350 000 Raymond Barre qui se réunissent pour trouver des solutions.
Vous ne pouvez pas mépriser à ce point des gens qui défendent leur emploi.
Oh, mais je ne les méprise pas. J'ai entendu leur programme. Alors, les énarques cheminots proposent Juppé des sous, point d'exclamation. Les polytechniciens guichetiers au poste lancent une alternative lumineuse. Juppé, casse-toi.
Monsieur Juppé, non, c'est honteux de dire ça. Il faut écouter les gens.
Bien sûr. En plus, moi, je n'ai fait que normal sup et l'ENA. Je ne demande qu'à apprendre.
Non, ne soyez pas comme ça. Les gens défilent parce qu'ils n'ont que ça pour s'exprimer.
Chacun son muscle. Eux, c'est les mollets. Moi, c'est le cerveau.
Mais vous allez vous faire détester, monsieur Juppé.
Par les mollets ?
Mais non, c'est une grève très populaire. Une grande majorité des Français l'approuvent, même s'ils restent silencieux.
Ah, ça, c'est fâcheux. Si ça se trouve, il y a un Français qui a la solution et il est resté silencieux. C'est vraiment trop bête. Si ce futur prix Nobel d'économie m'entend, qu'il m'envoie une banderole programme.
Vous êtes cynique. Ces gens ont des problèmes graves.
Mais je sais, je les connais, leurs problèmes. J'ai fait des études pour ça. Eux, ils les ont. Moi, je les connais. Chacun son travail.
Non, vous ne pouvez pas dire ça.
Écoutez, monsieur Darvor, vous avez sans doute une certaine forme d'intelligence. Vous pouvez comprendre que je ne vais pas changer de politique pour trois pancartes.
Mais c'est pas trois pancartes, ce sont des vraies interrogations.
Ah bon? Bien, allez-y.
Quoi?
Braillez-moi vos questions et écrivez-les-moi sur une banderole, puisque c'est comme ça qu'on fait. Mangez un sandwich au pâté aussi, vous serez bien dans le ton.
Ça, je vous comprends pas.
C'est normal, les mollets n'ont pas d'oreilles.
Donc vous ne changerez rien à votre politique?
Non.
Mais les gens veulent que ça change.
Eh bien qu'ils deviennent Premier ministre, puisque c'est si facile. Moi, je suis prêt à laisser la place. J'irai garder des chèvres, ça me changera des bœufs.
Bon, tant pis pour les chèvres. La suite.
Et oui, ces mots sont d'une malheureusement terrible actualité, mais la voix des guignols nous manque pour certaines de ces choses. Je décide ensuite un second extrait qui est tout autant d'actualité, mais dans un ton un peu plus joyeux, à propos du Festival de Cannes, qui n'a peut-être pas si changé que ça.
Formidable, hein ? Alors Philippe, comment ça se passe?
Formidable le Festival de Cannes, hein. Nulle part ailleurs, le Martinez, le soleil, le public qui nous réserve chaque année le même accueil, hein, hein. Ah oui, remarquez, Non mais c'est normal, on fait la même émission, hein. Formidable, hein.
Et vous Michel, vous avez vu des films?
Tous, je les ai tous vus.
Alors votre impression?
Super.
Non mais précisément, qu'est-ce que vous avez vu?
J'ai commencé par la sélection française, La Cité des Enfants Perdus, La Haine et N'oublie pas que tu vas mourir. Après, j'ai vu un film croate, Les Enfants du Malheur, un film finlandais, N'oublie pas que t'as le cancer et que ta femme est partie. Et puis un film autrichien, Crève. Alors après, il y avait le film azerbaïdjanais, La famille déchiquetée, sympa. Et l'australien, Le paralytique violet, moderne. Et ce matin, à 7h, le film du Zimbabwe, Une femme africaine.
Ah, ça, ça a l'air différent. C'est quoi le sujet?
C'est une fille de 8 ans qui se fait exciser, ça s'infecte, et puis après, à la fin, elle meurt.
Ah, et votre programme de la journée?
J'ai envie de mourir.
Ah, c'est quel pays, ça?
C'est pas un film, c'est mon état. J'ai envie de mourir, que tout ça finisse, vite. Mm-hmm.
Et vous, Philippe, vous avez vu des films?
Ah bah oui, plein, hein. Cannes c'est formidable, on peut voir plein de films. Et on a le cap dans la chambre. Hier j'ai regardé la télé jusqu'à 1h du matin.
Et vous Michel, qu'est-ce que vous faisiez à 1h du matin?
Je faisais partie du jury de la sélection parallèle Un certain regard sur la mort. On fait une rétrospective Piotr Beljemoy.
Qui ça?
Piotr Beljemoy. Vous savez, c'est le réalisateur qui est devenu fou et qui a mangé toute son équipe à la fin du tournage de La Maman aux yeux crevés.
Viens dans ma chambre ce soir, Michel, ça va te détendre. Il y a Pouic Pouic sur TMC.
Non, je peux pas. Je dois voir le nouveau Timur Zolgulu. N'oublie pas que t'as un anus artificiel.
Bon. Bah écoutez, en tout cas, bonne fin de festival, les gars.
Oh, bah formidable. Moi, je vais acheter un maillot et je vais me baigner.
Je vais acheter une corde et puis je vais me pendre.
Allez, sans transition, la suite de l'émission.
Voilà, maintenant, je vous laisse à la suite de vos émissions qui sont, à mon avis, tout aussi joyeuses.
Merci beaucoup Arthur pour ce retour dans le passé salutaire. Mais tout de suite, nous accueillons dans le studio Michel et Noémie pour une chronique exceptionnelle.
Bonsoir Colline.
Nous nous étions quittés sur des sons divins de gangbang un soir de 14 février avec Colline et Maë.
Mais nous sommes de retour.
Pour vous jouer de mauvais tours.
En compagnie de...
Michel.
Et Noémie.
Les meilleurs chroniqueurs sportifs de jeux de boules.
C'est presque un camoulox.
Absolument, mais c'est surtout le retour de la Chronix.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
La vie sexuelle des Français.
À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est?
Bon, je pense que l'hétéro vient de éther. C'est s'envoyer en l'air en se droguant avec de l'éther.
Des pratiques sexuelles plus libérées.
Que la sexualité n'a jamais été aussi exhibée.
Avez-vous entendu parler, madame, de déviation sexuelle?
Touch my tra-la-la.
C'est-à-dire qu'il y a 40 ans de Pauline.
On va parler de cul.
Voyez-vous ce qu'on appelle un adultère?
Adultère? C'est qu'un enfant, quand il est jeune, appelle ça intéressant. Quand il grandit, on dit qu'il est adultère.
Winston Bennett est un ancien accro au sexe.
Les Français, alors, sont-ils prudes ou gaulois?
On s'est rendu compte avec Noémie que consommer du porn, c'est bien.
Mais que d'en faire, c'est encore mieux, non?
Ouais.
Ouais.
On n'a pas encore vraiment tranché. Mais on s'est dit que rien ne valait un petit tuto des familles sur le son dans le porn. Une affaire très complexe.
Nécessitant de multiples étapes, toutes plus précises et pointilleuses les unes que les autres.
Parce que comme dans tout métrage classique, la finesse du son, ça se travaille. Ça se peaufine, c'est une affaire d'amour, de tendresse, de...
Doucement Michel, tu vas finir hors sujet.
Pardonne-moi. Dès que je commence à en parler, je m'emballe.
Alors on reste concentré, Michel, révèle-nous la première étape.
Eh bien, Comme dans tout film, avec 4 guillemets classiques, un porno nécessite une prise de son.
Il faut créer une ambiance.
Que l'on y s'y croit.
Une immersion incroyable.
Et du coup, comme pour tout film, on cale un perchman dans un coin.
Les bras bien tendus.
Tout à fait, le tout en restant en dehors du cadre. Le problème, c'est que si vous voulez être à la dernière tendance du porno, il va falloir faire des gros plans.
Beaucoup de gros plans.
De gros plans le matin, le midi, le soir et de nouveau le matin. On veut tout voir. Sauf qu'en gros plan, le micro se retrouve forcément assez proche de l'espace filmé.
Voire extrêmement proche.
Ah, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Si l'acteur prend un coup, il s'en remettra. Le spectateur n'en sera que plus heureux. Une fois les sons pris, il faut rajouter ce que la prise de son ne peut révéler précisément, à savoir...
les bruitages, ce qui constituera notre deuxième étape de tuto. Tu attendais ça avec impatience, Michel, c'est ça ?
Ah bah toujours, toujours, toujours.
Alors si vous croyez que le doux bruit de la transpi, le flop-flop régulier de la bonne vieille levrette...
ça peut claquer aussi, Noémie.
Bref, si vous pensiez que ces sons n'étaient que le fruit du labeur des perchman, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Ou ailleurs.
Il existe en effet le formidable métier de bruiteur.
Vous avez déjà vu des vidéos où un type chelou frappe une pièce de viande pour bruiter une bagarre, ou patauge dans une baignoire sans but apparent ?
Eh bien, c'est la même chose pour les films porno. Tout l'univers du bruit s'ouvre à nous pour nous offrir un infini des possibles.
Tu vas enfin nous dire à quoi servent les pompotes que tu nous as amenées ?
Patience, patience. Vous visualisez la scène ?
Ah, tout à fait.
Noémie, un peu de tenue.
Magnifique. Magnifique, que dire magnifique. Noémie, tu es sûre d'avoir déjà vu une capote ? On entend pas grand chose, mais c'est déjà ça. Notez, bon, notez, prenez des notes.
Bon, j'arrête, mais avec les bruitages. Mais bon, il faudra que vous fassiez un petit tour du côté post-prod pour enregistrer des dialogues après les bruitages.
Forcément.
Voilà.
Et alors là...
c'est le drame.
Ce satané stylo.
Peut-être puis-je vous être utile ?
Ah, auriez-vous un stylo ? Je ne parle pas de celui-là.
Duquel alors ?
Vous me comprenez, voyons. Je parle de celui que vous cachez. Vous pourriez me le montrer.
Et je comprends pas.
Et là, comme en collégienne passionnée, visiblement sortie dans les années 80...
VHS Power.
On trouve des dialogues, disons, très mal doublés. Vous sentez le délai des réponses, ce délicieux cringe qui dégouline hors du cadre pour venir épouser vos oreilles sensibles de préadolescents découvrant la toute nouvelle joie de ces hormones une fin d'après-midi, après être rentré des cours juste avant que le bruit de la voiture de maman ne te fasse entendre.
Oula, tout doux, Michel.
Ah, encore une fois, je m'emporte. Tout ça pour dire que d'enregistrer des dialogues, c'est tout un art, comme nous le savons si bien autour de cette table. Et il y a du doigté, de la finesse.
C'est pour ça que nous vous proposons nos dialogues préférés, ceux dont le doublage nous paraît si lunaire qu'il nous semble nécessaire,
essentiel même,
de vous partager afin de vous éviter le pire lors de vos propres expériences.
Pourquoi venir s'enterrer ici en pleine vallée de la mort ? Nous devrions être sur les points chauds, non ?
Ma chère petite, votre tour viendra, rassurez-vous. Mais pour l'instant, considérez-vous comme faisant partie de l'arrière, notre dernière ligne de défense.
Contre qui ?
Contre un socialisme envahissant, un radicalisme militant, des terroristes de tout poil. J'ai gardé un dernier exercice pour aujourd'hui. S'il est bien fait, il peut devenir une arme redoutable. Une fois en terrain ennemi, cette solution peut vous sauver la vie.
C'est quoi ?
Votre bouche. Employée à bon escient, c'est un atout. Encore faut-il que vous sachiez vous en servir pour enrober, amadouer l'ennemi. Nous allons donc faire ce soir un petit test. Sucez-nous et nous verrons si vous êtes capable de le faire.
À vos ordres.
Alors prouvez-le.
Alors celui-là, il place la barre encore plus haut. On sent comme un contraste entre les voix beaucoup trop jeunes des actrices et l'entrain non fin du monsieur dont le ton de voix nous rappelle vaguement les doublages d'un certain film appelé La classe américaine.
Et le rythme est lent.
Ah, ça je te l'accorde, et le scénario beaucoup trop complexe pour être imité. Il va falloir être plus direct, plus sauvage comme on dit.
Et pour ça, Michel, tu nous as trouvé juste ce qu'il nous fallait.
Mélanie, t'as une bouche à damner un régiment. Ma queue était au paradis tout à l'heure.
J'avoue qu'au départ, j'étais très réticente, mais une fois dans la gorge, c'était comment ? Mieux que Vilma ?
Oh putain, ouais, vachement mieux.
T'as remarqué comme je l'avais bien en bouche, on n'allait pas se faire coiffer par Slovaque. T'es une pointure à côté de lui.
Bah, tu sais, d'un certain côté, on se ressemble beaucoup. Hein.
Dans quel domaine ?
Je suis un enfoiré de premier.
Moi aussi.
J'aime les salopes. Oh putain, quelle recrute, hein.
Alors celui-là, je l'aime, que dire, je l'adore. On a à peine à croire que les acteurs n'étaient ne serait-ce qu'au courant de l'intrigue du film. À peine compréhensible, il faut le reconnaître. Soit les répliques ne viennent pas, soit elles s'enchevêtrent dans un méli-mélo à peine audible.
Donc bon, le côté direct, finalement, c'est mieux si on comprend quelque chose. Je crois que je vais continuer à faire muse avec mes pom-potes si tu continues comme ça. À moins que tu nous aies gardé quelque chose en réserve.
Vous aimez les fraises?
J'adore ça. Elles sont si sensuelles.
J'ignorais que les fraises étaient sensuelles.
J'adore les sucer. Et ensuite avaler leur jus.
Vous faites ça tellement bien.
Ah, j'aime mieux ça.
Tu me combles de joie, Noémie. En même temps, comment ne pas apprécier la finesse de ce dialogue, tout forcé qu'il est. Une musique d'une qualité rare, nous rappelant le De Palma de 83, période Scarface. Mais là, une métaphore toute...
légère et aérienne.
D'une magnifique fraise subissant un sort dont beaucoup d'entre vous rêvent de voir sur les plateaux.
Bande de coquines et coquins.
Comme c'est bien dit. Je vous passe la suite de l'extrait en situation renversée.
Un travail de scénarisation de folie.
Où l'on perd la métaphore pour se diriger tranquillement sur les rives de la beaufrie masculine, comme on l'aime.
Mais désormais, vous savez tout ce que vous devez éviter pour enregistrer des dialogues qui plairont à toutes les fans du genre.
Un succès assuré.
Et pour finir, pour habiller un peu les scènes creuses, un peu de musique.
De préférence, un motif répétitif, des basses calmes qui permettent de bien se fondre sous les bruits de...
Bisous. On commence avec du classique, du cliché, guitare à wah-wah, les basses rondelettes du disco bien posées pour du porno plutôt sage. On écoute The Beatles Dallas, thème de Gérard Sampler.
Si j'ai fait un film sur des vampires lesbiennes qui se pécho dans les mares de sang.
Eh ben, tu appelles Sigrid Schwab et Mantler Rubler qui composent pour toi The Lions and the Cucumber. Des trucs plus chelous aussi, notamment la BO des Inassouvis de Jess Franco, mêlant sitar indien, psychoactif, synthétiseur et guitare folk.
On écoute Drug Party de Bruno Nicolai.
Michel et Noémie dans la chronique sur Transistor. Vous connaissez désormais toutes les ficelles pour vos courts-métrages du samedi soir. Ouvrez grand vos oreilles et sortez couverts.
À bientôt.
Merci à tous les deux. Nous avons bien entendu pris des notes. Vous avez écouté Transistor Veille qui s'achève. Vous avez pu entendre le journal d'un pas dans la nuit avec Maë, Colline, Benoît et Rémi, le billet d'humeur de Rémi, la chanson d'actualité de Colline, la voyance d'Occitane, l'esprit géographique d'Arthur Guérin-Turc, des poils plein les yeux avec Colline, etc. et la chronique philo de Titouan, les appels de Nini, les guignols d'Arthur, la chronix, enfin, de Michel et Noémie.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
On tourne la scène des adieux.
Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est la dernière...
émission nocturne en direct.
Eh, hey, dis donc, à l'année prochaine. Père carrément sauter devant vous, maintenant, là, en direct, le studio.
Transistor.
20h26 sur Transistor et tout de suite nous allons retrouver Colline et Juliette au téléphone pour En Spectateur.